Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce vendredi matin est Ludovic Lemoynic. Il est conseiller municipal délégué à Saint-Brieuc. Il est également militant à l'Union démocratique bretonne, l'UDB. Et il est venu spécialement pour être avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Démat Darnol, bonjour à Terre Toute.
Et vous annoncez la couleur, on va parler de langue bretonne tout à l'heure et de culture. Mais j'avais envie de vous entendre, Ludovic Lemoynic, sur un combat qui vous est cher. C'est la possible réouverture de la ligne de chemin de fer qui va de Saint-Brieuc à Auray, ligne centrale. Ligne fermée depuis déjà plusieurs années, même si la partie Auray était aussi fermée au trafic ferroviaire voyageur. Qu'est-ce que ce serait l'intérêt de la réouverture de cet axe qui traverse la Bretagne du nord au sud ou du sud au nord?
L'intérêt, il est majeur pour la Bretagne. C'est une ligne transversale donc, qui, comme son nom l'indique, relie la côte nord à la côte sud de la Bretagne. Dessert au passage quand même quelques 200 000 habitants à peu près. Hein. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est dans ces alentours-là. Qui évite donc un passage par Rennes aussi, notamment, ou un passage par Brest de l'autre côté. Aujourd'hui, si on veut faire Saint-Brieuc-Lorient en train, forcément, il faut passer par Rennes. C'est plusieurs heures de voyage, des attentes, etc. Donc, c'est une desserte primordiale en Bretagne. Et c'est aussi, peut-être, surtout, la desserte du centre-Bretagne, qui aujourd'hui est quand même beaucoup abandonnée, notamment par les services publics. On avait évoqué ensemble la question du collège de Corlay. C'est un autre exemple en fait, de cet abandon du centre-Bretagne par les services publics, la fermeture de cette ligne.
Alors cette ligne, vous parlez du centre-Bretagne, il y a une attente en centre-Bretagne pour la réouverture de cette ligne, pour le trafic voyageur, mais il y a aussi un aspect économique, parce que le chemin de fer permet évidemment le transport des voyageurs, mais aussi le transport des marchandises, et aujourd'hui on se plaint en termes environnementaux du nombre de camions par exemple sur les routes ici en Bretagne. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir cet axe aussi pour un peu désengorger le trafic routier?
Exactement. En termes de trafic routier, c'est-à-dire de voitures, aujourd'hui, entre Loudéac et Saint-Brieuc, on est entre 20 et 30 000 véhicules quand même. C'est considérable. Sur la question du fret, la CGT a fait un excellent dossier d'une cinquantaine de pages sur cette question-là. Ils se sont approchés des entreprises le long de la ligne qui, pour beaucoup, majoritairement, se montrent favorables à cette ouverture de ligne.
Alors, il y a eu ces pressions, si j'ose dire, alors du syndicat, de la CGT, mais aussi de quelques élus. Et puis voilà, il y a aussi des opposants à l'ouverture de la ligne. En tout cas, des opposants ou des sceptiques à l'ouverture de la ligne qui verraient bien la mise en place d'une voie verte. Alors c'est là où la polémique a enflé ces temps derniers.
Alors, une polémique, non. Je peux comprendre que les riverains, voyant cette ligne abandonnée de fait, effectivement, puissent souhaiter avoir autre chose des voies de chemin de fer abandonnées au fond de leur jardin. Et je peux aussi entendre qu'ils ne souhaitent pas forcément le retour du train au fond de leur jardin. Ça peut s'entendre. Simplement, là, on parle d'intérêt général. On peut aussi entendre que les Briochins et les habitants de Ploufragan, des Châtelets, etc., ne veulent pas avoir 25 000 à 30 000 véhicules dans le fond de leur jardin non plus. À mon sens, la question de la voie verte c'est une fausse bonne idée, parce que aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il existe une voie qui relie justement la baie de Saint-Brieuc à la rade de Lorient, qui est la voie numéro 8, qui n'est pas parfaite, qui a besoin d'aménagement, qui a besoin de perfectionnement, et c'est peut-être là que les forces devraient s'orienter. D'ailleurs, les associations de cyclistes, notamment Vélorussion à Lorient, ne s'y trompent pas, ils sont contre le projet de voie verte à la place de la voie ferrée, ils sont plutôt en faveur de l'aménagement de la voie numéro 8.
Avec des possibilités de complémentarité, parce que finalement, on peut aussi embarquer son vélo dans le train pour l'emmener sur son lieu de travail si on a encore quelques kilomètres à faire à vélo. Là aussi, on pourrait imaginer de la complémentarité.
C'est un peu mon slogan ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'on peut mettre un vélo dans un train, on ne peut pas mettre un train dans un vélo. ce serait très compliqué. Et effectivement, une ligne transversale comme la ligne Saint-Brieuc-Pontivy-Pontivy-Auray permettrait, reliée aux lignes de bus, reliées à des parcs relais, etc., de pouvoir prendre son vélo jusqu'à la gare, d'embarquer son vélo, d'atteindre une destination Saint-Brieuc ou Lorient de l'autre côté, peu importe, et de repartir à vélo.
avec aussi des connexions vers les gares TGV, hein, que ce soit ici près de à Saint-Brieuc ou à Lorient et également.
Exactement.
Il y a aussi l'aspect environnemental, hein, avec moins de voitures. Évidemment, aujourd'hui, il y a une grande préoccupation du climat, il y a une grande préoccupation autour des questions environnementales. Là, on est dans le vertueux, finalement.
Exactement. On essaye tant bien que mal d'imaginer cet avenir qui se fera un jour irrémédiablement avec beaucoup moins d'essence à mettre dans nos voitures, beaucoup moins de combustibles fossiles, et le train apparaît comme un mode de transport collectif tout à fait efficace, tout à fait pertinent. Si ces lignes ont été créées à un moment donné, ce n'était pas pour rien, hein. Malheureusement, on les a fermés. Vous savez, un petit peu, c'est comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Eh ben, à modifier les horaires pour que de moins en moins de personnes puissent accéder au train. Alors, je pense, il me semble que vous avez été plutôt riverain de cette ligne, donc vous voudrez connaître un petit peu l'historique.
Et c'est ce qui s'est passé. Heures, hein. Ça marche pas bien, le train à 15 heures.
C'est ça. C'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a modifié les horaires et au final, mais il n'y a pas grand monde qui prend le train. Bon, on doit fermer la ligne pour travaux. Si on se rappelle un petit peu l'historique à l'époque, hein, c'était pour construire sur la rocade de l'Oudéa, qui est un pont qui devait se faire par-dessus la voie de chemin de fer. Donc on ferme temporairement la voie au trafic, le temps du chantier. On met une ligne de bus, mais qui ne sera que temporaire. On rouvre la ligne après. La ligne n'a jamais été ouverte. C'était pourtant une promesse, je le rappelle, de la région à l'époque, si on reprend les articles de presse.
Alors cette promesse n'a pas été honorée et la ligne est restée en désuétude depuis, avec une ligne de chemin de fer qui n'est pas entretenue et qui se dégrade. Aujourd'hui, les arbres poussent finalement sur la plateforme ferroviaire. Déferrer, c'est facile. Reconstruire une ligne, c'est plus difficile.
Complètement. Aujourd'hui, on parle de faire une voie verte sur la ligne Saint-Brieuc-Pontivy. Bon, on parle d'un investissement quand même de plusieurs millions d'euros, qui comprend comme le démontage de la voie. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien entendre, hein. L'association qui défend cette voie verte parle de réversibilité. Sauf que dans le dernier article, ils se sont un petit peu tirés mal dans le pied, puisqu'ils expliquent bien que dans le cas de cette voie avec des traverses en bois, les traverses en bois doivent obligatoirement être déposées, donc la ligne doit être démontée. Mmh. Donc la ligne n'existera plus, elle n'existera plus, c'est définitif. Et quel élu, après un investissement de plusieurs millions d'euros sur une voie verte, reviendrait dans quelques années en disant « on démolit tout et on refait la voie ferrée ». C'est pas possible. Mmh. Non, la voie ferrée doit être refaite en l'état, avec les aménagements modernes effectivement qu'il peut y avoir, et la voie verte doit se faire plutôt sur la voie numéro 8 qui est existante. En fait, tout est là, tout est sous nos yeux finalement. Mmh. Pour le train, la voie ferrée existe. Pour le vélo, parce qu'il y a un besoin, je ne le nie pas, hein. Il ne s'agit pas d'opposer ferroviaire et vélo, bien au contraire, les deux sont complémentaires. Pour le vélo, il y a la voie numéro 8. Donc l'existant doit être conforté et aménagé. Voilà, on ne doit pas détruire l'un pour l'autre.
Alors, pour nos auditeurs, ce n'est pas le train qu'on entend, mais une tondeuse, tout près de la radio, vous saurez tout. Pour revenir à cette voie de chemin de fer que d'aucuns appellent de leur vœu, comment se situent les élus briochins, par exemple? Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a une envie? Et puis, reste le nerf de la guerre, les moyens financiers.
Alors, faut rappeler qu'on a été quand même plusieurs élus mobilisés dès 2020, donc les élections municipales et aussi après les élections régionales qui sont arrivées. On était plusieurs élus briochins à être mobilisés en faisant cette voie verte. Des élus UDB, puisque c'est inscrit dans notre programme à nous, la réouverture des petites lignes bretonnes. Des élus communistes aussi, qui sont de fervents défenseurs des lignes ferroviaires. Je sais aujourd'hui, pour avoir des échanges réguliers avec eux, que les Verts aussi sont dans cette optique-là. Donc beaucoup d'élus locaux sont favorables à cette voie ferrée, bien sûr. Après, il y a eu récemment ce courrier d'une demi-douzaine de maires de l'agglomération, dont le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, donc le maire de ma majorité, qui ont demandé une
commission pour évaluer la
faisabilité de la voie verte. C'est dommage de mettre de l'argent là-dedans, mais j'entends aussi, je peux entendre aussi leurs arguments, évidemment. Mais le problème, c'est que ça part en fait d'un faux postulat. Ça part du postulat que c'est réversible. Mmh. Mais ce n'est pas réversible. On ne reviendrait jamais là-dessus. C'est ça le problème. Parce que je sais que Hervé Guillard, je sais très bien qu'il était favorable à la voie ferrée. On en avait parlé au début du mandat. voilà, pour lui, il n'y avait pas de sujet spécifique là-dessus. Il était favorable. Et il le dit bien, d'ailleurs, dans la lettre qui a été faite au président de l'agglomération. Oui, à la voie verte, mais à condition que ce soit réversible. Bon, on sait que ce n'est pas le cas. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait communiquer un petit peu plus aux élus locaux.
Voilà, et on peut le dire, on a regardé un petit peu, nous, sur les cartes de la Bretagne, toutes les voies de chemin de fer qui ont été déférées n'ont jamais été reconstruites. Hein, voilà.
Nulle part. Hein.
C'est important de le dire. Il y a aussi un appétit du grand public pour le ferroviaire aujourd'hui, particulièrement de la jeune génération, parce que c'est pratique, parce que voilà, la jeune génération n'est pas forcément la génération bagnole, hein, je mets les guillemets qui s'imposent. Est-ce que c'est peut-être là, justement, l'avenir de ces voies ferrées, de fédérer la jeune génération autour de projets ?
Ah bah, on le voit donc dans le collectif Centre-Bretagne en train qui est en train de se relancer, justement. Là. Beaucoup d'élus locaux, beaucoup de militants du ferroviaire sont des trentenaires ou des moins de 30 ans. La moyenne d'âge est très très jeune. Bon, je me compte pas dedans parce que j'ai dépassé la trentaine depuis un petit moment déjà. Je me rapproche plus de la quarantaine, mais un camarade, on va dire vert, il a entre 20 et 30 ans. Donc c'est vraiment un sujet jeune, ouais, effectivement, ouais. Jeune et moins jeune aussi, attention. Hein.
Voilà, oui, parce qu'il y a aussi les personnes qui n'ont pas de voiture mais qui sont parfois à mobilité réduite. Le train est une solution.
Tout à fait. Bah, on sait que malheureusement, la France est un pays qui vieillit, la Bretagne particulièrement, puisque beaucoup de retraités reviennent ici. Et du coup, avoir des transports en commun fiables, efficaces, qui permettent de relier toutes les grandes villes de Bretagne, ça prend tout son sens.
Alors on peut imaginer qu'il y ait une volonté qui renaisse, puisqu'on a vu la région Bretagne financer la remise à niveau d'une voie importante, celle qui va de Lamballe à Dinan, avec des nouvelles circulations, avec un confort de circulation, des temps réduits de parcours. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que la région, j'allais dire, passe le pas et puis aille vers ce projet de réouverture de Saint-Brieuc-Auray? On peut imaginer aussi que l'État soit sollicité, la SNCF, pour remettre ce projet, permettez-moi le terme, sur les rails.
Ah, on peut l'imaginer. Il faudrait quand même que la région ait une ambition là-dessus. Ils font des bonnes choses. Le cadencement des trains, l'augmentation de la fréquence des trains, ce sont de bonnes choses. Maintenant, je trouve quand même que le plan ferroviaire de la région manque singulièrement d'ambition. Conforter l'existant, c'est bien, c'est le minimum. Il faut peut-être maintenant conforter ce qui a existé à une époque et ce qui devrait réexister. Surtout que la région ne serait pas seule. Hein. Il y a quand même eu un plan européen de plusieurs centaines de millions d'euros en faveur justement de la réouverture des petites lignes. Je trouve dommage que la région ne se soit pas saisie de ce plan-là.
Je vais vous demander juste d'éloigner votre téléphone du micro, parce qu'on l'entend, me fait signe notre réalisateur. Voilà, ça fait un petit
c'est
bruit.
C'est mon pense-bête pour les chiffres.
Voilà, c'est vendredi. Sur les chiffres, parce que là, évidemment, la remise à niveau d'une ligne de chemin de fer telle que Saint-Brieuc aurait un coût considérable. On est dans une époque d'économie budgétaire, ça ne vous aura pas échappé. Est-ce que là, l'effort mérite d'être fait, ou est-ce que on risque pas d'attendre encore un petit peu parce que la situation financière n'est pas des meilleures?
On peut imaginer avancer petit bout par petit bout. Aujourd'hui, quelle serait la priorité sur cette ligne-là? On a quand même l'agglomération de Saint-Brieuc qui compte 150 000 habitants, ce n'est pas anodin. On pourrait imaginer une desserte fine dans un premier temps de l'agglomération briochine, donc une ligne de Saint-Brieuc jusqu'à Quintin. Donc avec une desserte fine des communes de l'agglomération desservie, et après avancer au fur et à mesure, hein, récupérer kilomètre par kilomètre, aller jusqu'à Loudéac dans un second temps, après de Loudéac jusqu'à Pontivy. De l'autre côté, c'est ce qu'ils font. Kilomètre par kilomètre, la ligne est rénovée sur l'axe Auray-Pontivy, et cette ligne-là, enfin, on peut la considérer comme sinon sauvé, du moins préservé à moyen terme.
Il faut aussi, nonobstant les besoins en moyens financiers, il faut aussi la volonté politique, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle n'est pas là, la volonté politique.
Effectivement, et c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'on a eu ces années un petit peu de... Enfin, je le sais, parce que je discutais beaucoup avec les camarades de la CGT Cheminots, qui ont été à l'origine du collectif Centre-Bretagne en train. dans leur idée de départ, et elle était tout à fait juste, c'était lancer le collectif, donner les clés pour le démarrer, mais il fallait que les élus locaux s'en emparent. Ça ne s'est pas fait. Mmh. Ou en tout cas, ça s'est fait à minima avec quelques élus, notamment deux élus briochins dont je fais partie, une élue aussi à Loudéac, si ma mémoire est bonne, et une à Pontivy. Voilà. Mais la dynamique qu'ils ont voulu lancer ne s'est pas créée, malheureusement. Pas de leur fait, hein, bien sûr, mais du fait du manque de réponse des politiques. Bon, aujourd'hui, c'est les politiques, finalement, qui remettent le sujet sur la table et qui rappellent la CGT en disant on revient, on est là, on a appelé du renfort, revenez nous voir. Et du coup, le collectif va se relancer, je l'espère.
Alors, il y a une question de commodité, d'utilisation du train pour les briochins, les briochines, ou tout, finalement tous les habitants le long de la ligne jusqu'à Auray. Et puis il y a aussi ce côté pratique si l'on développe, par exemple, de nouveaux matériels. Parce qu'aujourd'hui, on voit la SNCF qui imagine des navettes autonomes, des dessertes micro-locales. Est-ce que ça peut être le point de départ?
Ça peut même être une réponse aux inquiétudes en fait, des riverains, finalement. Qui ont peur un petit peu de voir revenir des grosses locomotives dans le fond de leur jardin. Aujourd'hui, il y a des innovations qui sont faites dans le ferroviaire. Ne nous contentons pas de rouvrir la ligne Saint-Brieuc-Pontivy. Faisons-en une ligne exemplaire en Bretagne, une ligne innovante, en utilisant les dernières technologies.
Alors justement, ces nouvelles technologies permettraient peut-être aussi de faire baisser les coûts d'exploitation, parce que réouvrir la ligne, c'est une chose, après il faut l'exploiter.
Exactement. Il existe alors, beaucoup de projets innovants. J'ai vu des trains-taxis, des trains à la demande. Alors, attention, on dit train, mais il faut imaginer quand même des choses assez modernes. Hein. Je peux pas trop le décrire par.
Ce sont de petites navettes.
C'est ça, des petites navettes et tout. Et effectivement, du coup, sur autonome, donc on pourrait imaginer sans chauffeur, sans contrôleur, avec un système de billetterie comme on montrait dans le bus ou comme on montrait dans le métro aujourd'hui à Rennes, par exemple.
Et là, on rentre dans la complémentarité des transports avec le bus, avec le train classique, avec le TGV. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'avenir des mobilités aujourd'hui, plus largement?
En Bretagne, ça devrait être l'avenir. Sauf qu'il va falloir que les élus et les techniciens de la région changent un petit peu leur logiciel. Le logiciel aujourd'hui en Bretagne, il est tourné comment? Il est tourné est-ouest, c'est-à-dire comment relier les villes bretonnes à Paris. Moi je dis, comment relier les villes bretonnes entre elles. Aujourd'hui, comment on fait un Saint-Brieuc-Quimper? On prend la voiture, il n'y a pas le choix. Ou alors on prend pléthore de lignes de bus qui nous prendraient la journée, ou alors on prend le train, mais il faut passer par Brest ou il faut passer par Rennes. Changeons notre logiciel. Comment on dessert les villes entre elles en Bretagne? Comment un Breton peut aller travailler à Quimper en habitant à Saint-Brieuc?
Alors, on va voir les municipales bientôt. Je vais glisser un peu sur un sujet un peu plus politique. Ça peut être un dossier qui peut être porté par des élus. Vous avez déjà donné un début de réponse, hein, Ludovic Lemoynic, mais ça peut être un dossier qui peut être porté par des élus, peut-être jusqu'au niveau le plus haut, le niveau national, par exemple.
Il le faudrait, oui. Aujourd'hui, force est de constater que ce sont quand même des élus... on va dire pas plus haut que des conseillers municipaux, des conseillers ou des quelques adjoints qui portent ces questions-là, cette question-là précise. Il faudrait que plus d'élus s'en emparent. Alors, je suis un petit peu injuste parce qu'on a aussi nos élus régionaux, notamment UDB, qui portent cette question-là au conseil régional, que je remercie vraiment parce qu'ils sont inlassables là-dessus avec le conseil régional, ils ne lâchent rien. Donc un grand merci à eux. Mais il faudrait qu'effectivement des maires s'en emparent, des présidents d'agglomération. Je ne vise personne, je suis mon regard. S'empare de ce sujet-là. C'est quand même beaucoup plus un sujet d'avenir qu'une voie verte qui finalement ne concernera que quelques riverains, que quelques touristes.
Alors, les municipales, justement, le pouvoir des élus, on en parle beaucoup aujourd'hui. Dans les petites communes, des maires, des fois, qui jettent l'éponge. À Saint-Brieuc, c'est pas le cas. On imagine qu'il y a un projet pour l'équipe de Hervé Guillard, qui est le maire de Saint-Brieuc, qui va, a priori, se représenter. Est-ce qu'il y a des grands dossiers à porter, des grands dossiers à finaliser à Saint-Brieuc? On voit qu'il y a une grande volonté de rendre Saint-Brieuc plus attractif. C'est une ville qui a longtemps été un peu mise de côté. Pardonnez-moi, hein, mais est-ce qu'il faut poursuivre l'effort en un mot?
Alors moi je découvre, hein, ce que je vous dis là, je vais vous dire un on dit, mais c'est un on dit que je découvre, hein. On dit souvent qu'il faut le premier mandat pour mettre les choses, enfin pour commencer à lancer les choses, et un deuxième mandat pour les mettre réellement en place. Bah, c'est vraiment ce que je constate là en fait, hein, finalement. On a lancé énormément de choses positives pour la ville de Saint-Brieuc, et on nous le dit, et on le voit au quotidien, nonobstant quelques râleurs de réseaux sociaux.
Il y a encore du bashing, hein, sur les réseaux sociaux.
Il y a encore du bashing, mais on se rend compte très vite que finalement ce sont les mêmes personnes qui sont sur les mêmes logiciels, qui ne changent pas. Je pense notamment aux questions de stationnement. Enfin, on dit aujourd'hui, ah, la ville est en... Enfin, on dit. Quelques-uns disent la ville est en train de tuer... la mairie est en train de tuer la ville de Saint-Brieuc parce qu'ils suppriment les voitures et suppriment les places de parking. Sauf que les vacances de commerce, la perte d'habitants, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas de ce programme politique-là, ça date d'il y a 20 ou 30 ans. La perte d'habitants, elle s'est amorcée dès les années 75, quand même. Hein. Le pic des habitants à Saint-Brieuc, c'était 54 000 habitants en 1975. Depuis, c'est la dégringolade, on n'a fait que perdre des habitants. Le perte de commerce, ça fait 30 ans que ça dure. C'est pas d'aujourd'hui. Et il y a 30 ans, on était sur quel logiciel? On était sur le tout voiture. Chaque place de Saint-Brieuc, c'était une star parking. En fait, on n'avait pas de place publique à Saint-Brieuc, on n'avait que des parkings, finalement. Les axes routiers, c'était des pénétrantes. Hein, on se rappelle la place du Guéclin, ce que c'était à l'époque. Hein, c'était une portion congrue, et à côté, c'était une quatre voies, en plein centre-ville. Et est-ce que ce modèle du tout-voiture a permis de sauver la ville? Pas du tout. Donc c'est peut-être là, justement, il faut se dire, changeons de logiciel, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, ça a participé au déclin de la ville. Il faut peut-être maintenant qu'on voit la ville autrement. Il faut qu'on voit la ville faite pour les êtres humains et peut-être pas pour les machines, finalement.
Avec aussi la question du commerce, hein, aujourd'hui, on voit la ville de Saint-Brieuc essayer de mettre le paquet pour que le retour du commerce en centre-ville, avec aussi une grande concurrence. Alors, ça fait l'objet d'une petite polémique des temps derniers, un affichage en pleine ville de Saint-Brieuc qui faisait la part belle au magasin de la zone commerciale de Langueux, pour ne pas citer cette zone. Ça a été pris comme une provocation?
C'était quand même très très indélicat quand même. Hein. Je veux dire, on a quand même un contexte assez particulier finalement au centre-ville de Saint-Brieuc, même si, il ne faut pas oublier que c'est général, hein, chaque jour qui passe, moi je vois passer des articles dans la presse, dans le West France ou le Télégramme, Vannes, Lorient, Nantes, Rennes, aucune ville en Bretagne et en France n'échappe au phénomène de la perte de commerce. Hein. C'est vraiment général. Mais bon, le contexte briochin est quand même assez singulier. Finalement, on a quand même une vacance qui est assez forte. Et c'était très, très indélicat de leur part de faire cette communication-là.
Voilà, je crois qu'ils ont un petit peu rectifié le tir en disant qu'ils étaient prêts à avoir des échanges. Voilà.
Oui.
Dont acte.
Dont acte.
Alors, sur le municipal, il y a aussi la question un peu plus politique des alliances. Aujourd'hui, la ville de Saint-Brieuc est à gauche. Elle peut basculer comme d'autres villes en France. Si, par exemple, l'alliance de la gauche vole en éclats, on voit beaucoup de dissensions, par exemple, entre le PS et LFI. Il n'y a pas eu d'alliance avec LFI pour les dernières municipales.
L'alliance telle qu'elle est construite à Saint-Brieuc, enfin, telle qu'elle était construite en 2020, ne vole pas en éclats. Ça, c'est, elle est ferme et solide. C'est-à-dire, on regroupe aujourd'hui quand même beaucoup de partis qui vont du PS à l'UDB, en passant par le PC, les Verts, Génération, je ne veux pas oublier de camarades, mais voilà, beaucoup de partis en tout cas. Donc aujourd'hui, l'alliance, elle est faite, elle est solide et elle est ferme. C'est même un exemple, je trouve, en Bretagne. C'est vraiment un exemple de solidarité et d'union. Donc non, je suis pas inquiet sur ce groupement de partis, en n'oubliant pas bien sûr que la liste était ouverte à moitié aussi à des gens non encartés. Donc non, pas d'inquiétude là-dessus du tout. Après, les filles, c'est un autre sujet. J'ai toujours été franc, je pense. Vous savez que moi, en tant qu'UDB, et les filles, c'est quand même compliqué. Même si je sais que humainement, certains membres des les filles sont favorables aux langues de Bretagne, sont favorables à la culture bretonne. Mais il y a quand même une ligne directrice du parti. Ça reste un parti quand même national qui prend ses décisions à Paris. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, si demain, le collectif décide que l'union doit se faire en incluant LFI, dont acte. On fera l'union comme ça.
Avant de nous quitter, je voulais vous entendre, Ludovic de Moignic, sur la culture. Hein, je le disais en commençant, d'abord, vous êtes très attaché à la culture bretonne, on l'a compris, mais c'est aussi votre mission à la mairie de Saint-Brieuc. Les langues de Bretagne, alors je dis les langues, le breton et le gallo, hein, pour nos auditeurs lointains, mais aussi le patrimoine. Et cette semaine, nos confrères du POER ont lancé un signal d'alarme à la une, culture bretonne, le malaise. Aujourd'hui, la culture bretonne est menacé à bien des égards, et tout d'abord dans l'acception la plus matérielle, c'est-à-dire les subventions. Aujourd'hui, on voit une restriction ou des restrictions budgétaires un petit peu partout. Ça impacte la culture, ça impacte aussi la culture bretonne plus précisément. Est-ce que vous avez une inquiétude là-dessus ?
À Saint-Brieuc, on ne va pas se mentir, on n'y a pas échappé. L'État a demandé aux collectivités locales de combler le déficit national. Ça passe donc par des baisses de subventions, notamment. À Saint-Brieuc, donc, le phénomène existe. Nous avons dû faire un certain nombre de baisses de subventions de manière quand même très raisonnable et réfléchie. Ça s'est fait au cas par cas en fonction de telle association, si elle a des employés, etc. Donc on a été très attentifs quand même à ne pas mettre en danger les associations. Les associations culturelles bretonnes ont malheureusement dû prendre leur part, elle reste minime. Toutefois, je tiens à rappeler quand même que sous les précédentes mandatures, notamment la fédération Télène, c'était 0 € de subvention de la part de la ville de Saint-Brieuc, puisque la ville considérait que c'était un équipement d'agglomération, donc la ville n'y avait pas à apporter de deniers là-dessus. Depuis que nous sommes arrivés, on a arrivé aujourd'hui, je crois, à 5 000 € de subvention, ce qui représente peu ou prou à peu près 15%, 20% de la totalité de mon budget culture bretonne.
Alors, au-delà des budgets, il y a aussi, et ce sera ma dernière question, une inquiétude sur la langue bretonne. Aujourd'hui, il y a moins de locuteurs. Là aussi, il y a pas mal d'alertes qui sont lancées. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce qu'il faut faire plus encore pour la langue bretonne ?
Il faut faire plus. Il faut faire toujours plus. Avec les difficultés qu'on a de ne pas pouvoir toujours être décisionnaire sur les territoires, de ne pas toujours avoir les moyens de nos décisions. Mais il faut faire toujours plus. Nous, à Saint-Brieuc, je pense que ces cinq dernières années, on a fait beaucoup plus que ce qui a été fait sur les 30 ou 40 années précédentes. On arrive en 5 ans de mandat quand même. Alors, petite annonce. Aujourd'hui, normalement, les techniciens de la ville rencontrent l'Office public de langue bretonne. Donc, je n'ai pas encore la réponse, mais on espère la validation du niveau 1 de la charte d'arbres et zonègues. Je sais que l'Institut du Gallo nous valide d'ores et déjà le niveau 1, donc ça veut dire que d'ici quelques semaines, nous devrions signer à Saint-Brieuc, donc lors de Mélia, si tout se passe bien, nous devrions signer, valider les niveaux 1 des deux chartes et signer pour les niveaux 2 des deux chartes.
Avec une ville très volontaire sur la langue, hein. Quand on arrive à Saint-Brieuc, même les vacanciers qui viennent en terre bretonne peuvent découvrir les panneaux trilingues.
Oui, mais c'est un sujet qui, à mon sens, n'est pas assez transversal. La ville prend sa part dans ce combat-là. Les associations, bien entendu, prennent leur part dans ce combat-là, bien plus que quiconque. Je pense notamment à la Fédération Télène, aux associations telles que Kerouézé, Crézène à Bervé. Mais il faut aussi que toute la société civile s'empare de cette question-là. Aujourd'hui, tout le monde en Bretagne, en tout cas la majorité des habitants, se reconnaissent bretons, se défendent la Bretagne. Il faut que ça aille quand même plus loin que cette simple reconnaissance de dire « oui, je suis breton ». Il faut défendre ses langues, il faut... Il faut vraiment être... Quand je vois que 75% des parents veulent que l'enseignement bilingue se fasse, mais qu'ils sont que 2% à mettre leurs enfants dans l'enseignement bilingue, il y a un petit problème.
Il y a une distorsion.
Il y a une distorsion, tout à fait. Il faut passer de la parole aux actes. Et il faut que ce soit toute la société civile de Bretagne qui s'y mette, les politiques, les associations et les habitants.
Voilà, et on va manquer de temps, je voulais vous interroger sur les territoires et sur la Bretagne à 5 départements, mais vous reviendrez évidemment au micro de la matinale de Bretagne 5, Ludovic Lemoignic, conseiller municipal délégué à Saint-Brieuc, militant de l'UDB, était avec nous ce vendredi matin pour parler de ferroviaire et pour parler de culture bretonne, et on l'aura compris, on vous reviendrez parler aussi des municipales. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.